Chapitre 2. Lorsqu'il se réveilla, il était allongé sur le dos, un petit tas de foin inodore sous la tête. Le garçon n'avait pas été capable de le déplacer, mais il avait veillé à son confort, et il sentait la fraîcheur. Il baissa les yeux et vit que sa chemise était sombre et humide. Il se lécha les lèvres et sentit l'eau. Il cligna des yeux. Sa langue lui parut gonflée dans sa bouche. Le garçon était accroupi à côté de lui. Dès qu'il vit le pistolero ouvrir les yeux, il attrapa derrière lui une boîte de conserve cabossée remplie d'eau qu'il lui tendit. Le pistolero la saisit dans ses mains tremblantes et s'autorisa une gorgée. Juste une. Dès qu'elle fut descendue et arrivée dans son estomac, il en but un peu plus. Puis il se renversa le reste sur le visage en soufflant par saccades. Sur les lèvres ravissantes du garçon se dessina un petit sourire grave. « Vous voulez manger quelque chose, monsieur ?»«
Pas encore, » fit le pistolero.
Il se sentait toujours comme une nausée dans le crâne, causée par l'insolation, et l'eau bougeait bizarrement dans son estomac, comme si elle ne savait pas où aller.
« Qui es-tu ? » ?»«
Mon nom est John Chambers. »
Vous pouvez m'appeler Jake.
J'ai une amie, enfin, c'est comme une amie, elle travaille pour nous, qui m'appelle Bama,
parfois. Mais vous pouvez m'appeler Jake.
Le pistolero se redressa, et la nausée se fit immédiatement plus prégnante. Il se pencha vers l'avant et perdit un bras de fer avec son estomac.
Il en reste, dit Jake.
Il prit la boîte et se dirigea vers le fond de l'écurie. Il s'arrêta et adressa au pistolero un sourire incertain. Le pistolero hocha la tête, puis la pencha vers l'avant, et se la cala sur les mains. Le garçon était bien fait, beau, âgé de 10 ou 11 ans. Le pistolero avait vu passer sur son visage l'ombre de la peur, mais c'était au mieux. Il lui aurait fait bien moins confiance s'il n'avait pas montré la moindre crainte. Il entendit monter du fond de la grange un cognement sourd et étrange. Il releva la tête d'un mouvement alerte, les mains se posant instantanément sur la crosse de ses pistolets. Le bruit dura environ 15 secondes, puis s'arrêta. Le garçon revint avec la boîte, à nouveau pleine. Le pistolero but, une fois encore, avec précaution, et cette fois ce fut un peu mieux. La migraine commençait à diminuer.
« Je ne savais pas quoi faire de vous quand vous êtes tombé, » dit Jake. « Pendant 2-3 secondes, j'ai cru que vous alliez me tirer dessus. »«
C'est possible, oui. Je t'avais pris pour quelqu'un d'autre. »«
Pour le prêtre ?»
Le pistolero lui darda un regard aigu. Le garçon l'observait, les sourcils froncés.
« Il a fait son campement dans la cour. Moi, j'étais dans la maison. »« C'est peut-être une gare, d'ailleurs, je ne sais pas. »
« Je l'aimais pas, alors je suis pas sorti. Il est resté la nuit, il est arrivé la nuit, et il est reparti le lendemain. Je me serais bien caché quand vous êtes arrivé, mais je m'étais endormi. »
Il jeta un regard sombre au-dessus de la tête du pistolero.
« J'aime pas les gens. Ils me font chier. »
« Ils ressemblaient à quoi ?»
Le garçon haussa les épaules.
Un prêtre, il était tout en noir,
une capuche et une soutane.
C'est quoi une soutane?
Une robe, ça ressemble à une robe.
Le garçon acquiesça.
Oui, c'est à peu près ça.
Le pistolero se pencha en avant et ce qui passa sur son visage provoqua un léger mouvement de recul chez l'enfant.
Il y a combien de temps? Dis-le-moi au nom de ton père.
Je...
D'un ton patient, le pistolero dit « Je ne te ferai pas de mal. »
« Je ne sais pas, je ne me souviens pas du temps qui passe. Tous les jours se ressemblent. »
Pour la première fois, le pistolero se demanda clairement comment ce garçon était arrivé là, perdu dans les lieux desséchés de ce désert tueur d'hommes. mais il refusait d'en faire un problème personnel. Pas encore, du moins.
« Faites ton mieux. Il y a longtemps ?»«
Non, pas longtemps.
Ça fait pas longtemps que moi je suis là. »
Le feu se ralluma en lui. Il s'empara de la boîte avec des mains à peine tremblantes et but. Une bribe de la comptine lui revint en tête, mais cette fois-ci, au lieu du visage de sa mère, il vit celui balafré d'Alice, qui avait été sa gueuse dans feu la ville de Tal.
Une semaine? Deux? Trois?
Le garçon le regarda d'un air distrait.
Oui?
Oui quoi?
Une semaine ou deux?
Il détourna le regard, rougissant légèrement.
Il y a trois crottes de ça. C'est le seul moyen que j'ai de mesurer maintenant. Il n'a pas bu une goutte. J'ai même pensé que c'était peut-être le fantôme d'un prêtre, comme dans ce film que j'avais vu. Il n'y avait que Zorro qui avait deviné que c'était pas un prêtre, ni un fantôme d'ailleurs. C'était juste un banquier qui voulait la terre parce qu'il y avait de l'or dessus. C'est Madame Shaw qui m'avait emmené voir ce film. C'était à Times Square.
Le pistolero ne comprenait pas un mot de ce que racontait le garçon, aussi ne fit-il aucun commentaire.
J'avais peur, dit le garçon. J'ai eu peur, presque tout le long.
Son visage frissonnait comme du cristal à une seconde de la note sublime, suraiguë, destructrice.
Il n'a même pas fait de feu. Il est resté assis là, c'est tout. Je ne sais même pas s'il a dormi.
Tout près. Plus près qu'il ne l'avait jamais été par tous les dieux. Malgré son état de déshydratation extrême, il se sentait les mains légèrement moites, poisseuses.
« Il y a de la viande séchée, » suggéra le garçon.
« D'accord, » fit le pistolero. « Très bien. » Le garçon se leva pour aller chercher quelque chose, les genoux craquant légèrement. Il avait une silhouette droite et longiligne. Le désert ne l'avait pas encore abîmé. Il avait les bras fins, mais sa peau, bien que bronzée, n'était ni sèche ni craquelée. Il a de l'énergie, pensa le pistolero. Peut-être bien du sable dans l'estomac aussi, ou bien il m'aurait déjà pris un de mes pistolets pour me descendre quand j'étais à terre. Ou peut-être le garçon n'y avait-il tout bonnement pas pensé. Le pistolero but à nouveau dans la boîte de conserve. Qu'il ait ou non du sable dans l'estomac, il n'est pas du coin. Jake revint avec une pile de lanières de viande séchée disposée sur ce qui ressemblait à une planche à pain décapée par le soleil. La viande était assez dure, filandreuse et salée pour faire chanter les commissures ulcérées des lèvres du pistolero. Il mangea et but jusqu'à sentir la léthargie le gagner, et il s'adossa au mur. Le garçon mangea peu, piquant les lambeaux noirs avec une étrange délicatesse. Le pistolero l'observait, et le garçon lui rendit son regard avec une certaine franchise. « D'où viens-tu, Jake ? » finit-il par lui demander.
« Je sais pas, » fit le garçon en fronçant les sourcils. « Quand je suis arrivé ici, je le savais, mais maintenant, c'est tout flou, comme un cauchemar quand on se réveille. J'en fais plein, des cauchemars. Madame Shaw disait que c'était parce que je regardais trop des films d'horreur sur la 11e chaîne.
Qu'est-ce que c'est, une chaîne ? Une idée un peu folle lui vint. C'est comme un rayon ?
Non, c'est la télé.
C'est quoi, la télé ?
Je... Le garçon se toucha le front. Des images ?
C'est quelqu'un qui t'a trimballé jusqu'ici ? Cette Madame Shaw, peut-être ?
Non, dit le garçon. J'étais là. C'est tout.
Qui est cette Madame Shaw ?
Je sais pas.
Pourquoi t'appelle-t-elle Bama ?
Je ne m'en rappelle pas.
Ça n'a aucun sens, ce que tu racontes, fit le pistolero d'un ton catégorique. Soudain, le jeune garçon se retrouva au bord des larmes.
J'y peux rien, j'étais ici, voilà tout. Si vous m'aviez posé des questions sur la télé et les chaînes, rien qu'hier, je vous parie que je m'en serais souvenu. alors que demain j'aurai probablement oublié que je m'appelle Jake. Sauf si vous me le redites. Et vous ne serez pas là, pas vrai? Vous allez partir et moi je vais mourir de faim parce que vous avez englouti presque toutes mes réserves de nourriture. J'ai pas demandé à être ici. J'aime pas ici. Ça fiche les jetons.
Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Fais avec.
J'ai pas demandé à être ici,
répéta le garçon avec un air de défi buté. Le pistolet rose se resservit un morceau de viande, le mâchant pour qu'il exsude son sel avant de l'avaler. Le garçon était désormais mêlé à cette histoire, et le pistolero était persuadé qu'il disait la vérité. Il n'avait rien demandé. Lui-même, lui, l'avait bien cherché. Mais il n'avait pas demandé à ce que le jeu se gâte à ce point. Il n'avait pas demandé à passer toute la population de Tull par les armes. Il n'avait pas demandé à abattre Ali, avec son joli visage triste, marqué les derniers temps par ce secret qu'elle avait finalement voulu se faire révéler en prononçant ce mot, ce 19, comme une clé entrant dans un cadenas. Il n'avait pas demandé à devoir choisir entre le devoir et le meurtre pur et simple. Ce n'était pas juste d'avoir à faire entrer en scène des spectateurs innocents et de leur faire dire des répliques étranges qu'ils ne comprenaient pas. Ali, se dit-il, Ali au moins faisait partie de ce monde, à sa manière, avec des illusions qu'elle s'était construites. Mais ce garçon, ce foutu garçon.
Raconte-moi ce que tu te rappelles, lui dit-il.
Pas grand-chose, et ça n'a plus aucun sens maintenant.
Raconte-moi. Peut-être que moi j'y verrai clair.
Le garçon se demanda visiblement par où commencer. Il y réfléchit très dur.
Il y avait cet endroit avant celui-ci. Un endroit haut, avec plein de pièces, et un patio duquel on pouvait regarder les bâtiments très hauts, et de l'eau. Et dans l'eau, il y avait une statue.
Une statue dans l'eau.
Oui, une dame avec une couronne, une torche et, il me semble, un livre.
Tu inventes ou quoi ?
Peut-être bien, oui,
fit le garçon d'un ton désespéré.
Dans les rues, il y avait des choses qui avançaient toutes seules, des grosses et des petites. Les grosses étaient bleues et blanches, et les petites étaient jaunes, plein de jaunes. J'allais à l'école à pied, il y avait des sentiers en ciment à côté des rues, des fenêtres pour regarder à l'intérieur, et encore des statues, mais qui portaient des vêtements. Les statues vendaient les vêtements. Je sais que ça a l'air fou, mais c'était les statues qui vendaient les vêtements.
Le pistolero secoua la tête et chercha à lire sur le visage du garçon la trace du mensonge. Il n'en vit aucune.
J'allais à l'école à pied, répétait le garçon avec obstination. Et j'avais un...
Ses yeux se renversèrent et se fermèrent, et ses lèvres se mirent à tâtonner.
Un sac à livres marron. J'emportais un déjeuner. Et je portais, à nouveau, le tâtonnement, la torture de ce tâtonnement, une cravate.
Une cravate.
Je sais pas.
Inconsciemment, le garçon porta la main à sa gorge, et ses doigts se crispèrent dans ce que le pistolero prit pour un geste de pendaison.
« Je ne sais plus. Tout a disparu, c'est tout. »
Et il détourna le regard. « Je peux te faire dormir ?» demanda le pistolero.
« Je n'ai pas sommeil. »«
Je peux te donner sommeil et faire en sorte que tu te souviennes. »
« Comment vous feriez ça ?» demanda Jake d'un air dubitatif.
« Avec ceci. » Le pistolero retira une balle de son ceinturon et la fit rouler entre ses doigts. Le mouvement était habile, fluide, comme de l'huile. La balle faisait la route sans effort, tournoyant du pouce à l'index, de l'index au majeur, du majeur à l'annulaire et de l'annulaire à l'auriculaire. Elle sauta hors du champ de vision, puis réapparut, semblant flotter un court instant, puis fit machine arrière. La cartouche allait et venait entre les doigts du pistolero. Les doigts eux-mêmes semblaient marcher comme l'avaient fait ses pieds sur les derniers kilomètres qu'il avait menés en ce lieu. Le garçon observait la scène, et son air dubitatif initial fut remplacé par un ravissement pur, puis par une fascination à laquelle succéda une impassibilité totale lorsqu'il céda. Ses paupières glissèrent sur ses yeux. La cartouche allait et venait comme dans une danse. Les yeux de Jack se rouvrirent, se fixèrent un peu plus longtemps sur le mouvement régulier et limpide des doigts du pistolero, puis ils se refermèrent. Le pistolero continua son envoûte, mais les yeux de Jake restèrent clos. Le garçon respirait lentement, d'un souffle calme et constant. Fallait-il vraiment passer par là? Oui, pas de doute. Il y avait une certaine beauté froide là-dedans, comme ces bordures en dentelle qui frangent les blocs de glace. Une fois encore, il crut entendre sa mère chanter, non plus cette absurdité sur la pluie dans les plaines, mais une absurdité plus douce, venue de très loin, tandis qu'il oscillait au bord du sommeil. « Petit oiseau, bébé adoré, amène donc ici ton panier. » Le pistolero sentit dans sa bouche, et ce n'était pas la première fois, ce goût plombé du mal de l'âme. La cartouche entre ses doigts, manipulée avec une telle grâce, une grâce inconnue, devint soudain atroce, comme la trace d'un monstre. Il la laissa tomber dans sa paume, ferma le poing et serra de toutes ses forces jusqu'à avoir mal. Si la cartouche avait explosé, sur le moment, il se serait réjoui de la destruction de sa main habile, car son seul véritable talent, c'était le meurtre. Le meurtre avait toujours existé dans le monde, mais se le dire ne lui était d'aucun réconfort. Le meurtre existait, et le viol, et toutes sortes de pratiques indicibles, et toutes au nom du bien, cette saloperie de bien, cette saloperie de mythe, pour le Graal, pour la tour. Ah, cette tour qui se dressait partout, au cœur de toute chose, c'est ce qu'on disait, imposant sa masse gris-noire sur fond de ciel, et dans ses oreilles décapées par le désert, le pistolero entendait la douce mélodie étouffée, la voix de sa mère. « Va, cours, vole, et rapporte de quoi remplir ton panier. » Il balaya la chanson morte de son esprit, elle et sa douceur. « Où es-tu » demanda-t-il.